Bonjour, au micro Idrissa Seloudia. Au Mali, le leader de l'opposition parlementaire, Soumaïla Cissé, et Sophie Petronin, dernière otage française dans le monde, ont recouvré la liberté en même temps qu'un prêtre et un jeune Italien. Nous y reviendrons dans quelques instants avec nos correspondants Kassim Traoré et Mokhtar Bari. En Guinée, le principal candidat de l'opposition à la présidentielle du 18 octobre, Seloud Alain Diallo, a exhorté le président sortant, Alpha Condé, à partir dignement à la retraite, mettant en doute sa capacité à 82 ans à exercer un nouveau mandat. Dans une interview à France 24 et RFI de Macenta où il est en campagne, M. Diallo, 68 ans, a de nouveau reproché à M. Condé sa candidature controversée à un troisième mandat. En République démocratique du Congo, le gouvernement a promis jeudi d'agir contre des agents des organisations internationales accusés d'abus sexuels lors de la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique d'Ebola dans l'est du pays. Nous y reviendrons dans quelques instants avec Eddy Issango. Une militante mauritanienne des droits des femmes et des minorités, Mekfoula Mint Brahim, a reçu jeudi le prix pour l'Afrique décerné par l'ONG internationale Frontline Defenders pour les défenseurs des droits humains en danger. Le directeur exécutif de l'ONG, Andrew Anderson, a salué son grand courage et l'a qualifié de modèle pour toute une génération de jeunes Mauritaniens. Et dans une interview à l'AFP, Mekfoula Mint Brahim a dit se sentir en danger et s'inquiéter de l'évolution islamiste de la société. Et elle a appelé à la séparation de la religion et de l'État et un État laïque. Des gardes-côtes de la marine royale marocaine ont intercepté depuis mardi en mer Méditerranée 231 migrants subsahariens tentant de rejoindre l'Europe à bord d'embarcations de fortune. Ici aux États-Unis, quelques jours après avoir quitté l'hôpital où il était soigné pour son infection au coronavirus, le président Donald Trump a affirmé qu'il envisageait de participer à un meeting de campagne dès samedi en Floride, un état clé pour la présidentielle du 3 novembre, alors même que la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, met en doute sa capacité à gouverner. D'autre part, confusion sur les deux derniers débats télévisés prévus entre le président républicain et son rival démocrate Joe Biden. Avant le scrutin, nous y reviendrons avec Abdulrahman Dia, tout comme avec Yacouba Ouédraogo, sur l'inculpation de 13 hommes liés à un groupe américain d'extrême droite complotant l'enlèvement de la gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, une farouche opposante à M. Trump. L'inquiétude est vive en Europe où la propagation du coronavirus reprend de plus belle, l'Allemagne redoutant même qu'elle ne devienne incontrôlée, tandis qu'à Madrid, une des capitales les plus touchées du continent, le gouvernement espagnol envisage d'instaurer l'état d'urgence vendredi. Et la Chine dit avoir adhéré à l'accord garantissant des vaccins aux pays pauvres, une initiative de l'OMS. Le président du Kyrgyzstan, Sonrobay Jeenbekov, s'est déclaré vendredi prêt à démissionner pour tenter de mettre fin à la crise politique qui secoue depuis près d'une semaine ce petit pays d'Asie centrale à la suite d'élections législatives controversées, une démission qui pourrait intervenir une fois une date fixée pour de nouvelles législatives. Le président russe Vladimir Poutine a convié vendredi à Moscou les chefs de la diplomatie de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan pour tenter d'amorcer un dialogue sur la région séparatiste du Nagorno-Karabakh où les combats se sont poursuivis jeudi. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Restez à l'écoute pour la suite de nos informations.
La suite de nos informations. Au Mali, le président du parti URD a été libéré jeudi par ses ravisseurs après 6 mois de détention. En plus de Soumaïla Cissé, il y a l'humanitaire française Sophie Petronin, enlevée en 2016 à Gao. Les ex-otages ont été présentés aux nouvelles autorités maliennes avant de regagner leurs familles respectives. Kassim Traoré.
Cri de soulagement et d'émotion du fils de Sophie Petronin et les larmes de joie de Cissé Aissata Traoré, épouse de Soumaïla Cissé, c'était hier soir sur le tarmac de l'aéroport Modibo Keïta de Bamako-Senou. Les désormais ex-otages ont été transportés de Tessalit à Bamako par un avion militaire de l'armée malienne. Après l'accueil, ils ont été conduits directement au palais de Koulouba où les attendaient le président de la transition Bandaou, le vice-président Assimi Goïta et le premier ministre. Soumaïla Cissé a commencé par remercier les nouvelles autorités maliennes d'avoir diligenté sa libération. Il a fait savoir qu'il n'a jamais été ni violenté physiquement, encore moins verbalement, par ses ravisseurs. Le président de l'IRD d'ajouter qu'ils ont été libérés depuis le lundi 5 octobre, mais qu'il fallait prendre des dispositions afin de sécuriser la vie des otages. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Écoutez un extrait de la première déclaration publique de Soumaïla Cissé.
Je vais très bien, je suis sain et sauf. J'ai passé 6 mois, bien sûr, difficiles, dans des conditions climatiques très difficiles, austères. Une alimentation qui n'est pas toujours adaptée. Un isolement qui est quasi permanent, physique et moral. Mais je n'ai subi aucune violence, ni physique, ni verbale. Et je suis venu remercier aussi, les autorités maliennes qui, le président a investi le 25. Le 26 déjà, mes ravisseurs m'ont appelé pour faire une vidéo comme signe de vie. Et le lundi 5, c'est-à-dire moins de 10 jours après, ils m'ont informé qu'on est libéré. Donc aujourd'hui, c'est jeudi, bien sûr, ça fait du temps.
Des propos recueillis par notre correspondant Mokhtar Bari. En République démocratique du Congo, le gouvernement promet d'agir contre des agents des organisations internationales accusés d'abus sexuels lors de la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays. Le point avec Eddie Isango.
Une équipe d'enquête va se rendre au Nord Kivu, épicentre de la 10e épidémie d'Ebola en RDC. Elle aura pour mission d'établir des responsabilités et sanctionner, indique le docteur Eteni Longondo, ministre congolais de la Santé. L'enquête portera sur les allégations d'une cinquantaine de femmes congolaises qui affirment avoir été victimes d'exploitation sexuelle sous forme de chantage à l'emploi par des agents déployés dans la lutte contre Ebola entre 2018 et 2020 par des organisations notamment l'OMS et l'UNICEF. Les deux agences ont récemment annoncé avoir lancé des investigations. Pour le ministre congolais de la Santé, les fonctionnaires internationaux sont les plus nombreux à se livrer à ce genre d'exploitation sexuelle. Mais l'enquête ciblera également des fonctionnaires congolais. La justice se chargera de ceux qui seront pris. Une autre épidémie sévit depuis juin dans l'Ouest. La précédente, la 10e, avait provoqué 2287 morts pour 3470 cas entre août 2018 et juin 2020. $1 milliard ont été investis pour lutter contre cette épidémie.
En Sierra Leone, les enquêteurs anticorruption ont été empêchés jeudi d'interroger l'ancien président Ernest Bai Koroma dans sa ville natale de Makeni lorsque ses partisans ont bloqué la route en les menaçant. Koroma et une centaine d'anciens officiels sont visés par une enquête pour enrichissement illicite pendant son mandat de 2007 à 2018. Nathalie Barche.
Les agents de la commission anticorruption n'ont pas pu accéder à la résidence de Koroma, qui fait partie des biens et actifs d'une valeur de $200 millions, dont le remboursement est exigé par le gouvernement. Des centaines de jeunes ont occupé les rues, bloqué la route et ont menacé d'attaquer si on tentait d'accéder au président, a déclaré le chef de la commission, Francis Ben Kaifala, ajoutant qu'il a ainsi été décidé de ramener les enquêteurs à Freetown. Le parti de Koroma a démenti les barrages routiers et que la foule était hostile. L'ancien président était disposé à coopérer quand les officiels ont décidé de partir, selon Sidi Yaya Tunis, porte-parole de l'APC, affirmant que ses partisans étaient rassemblés autour de sa résidence par solidarité. L'actuel président Julius Madabio a lancé une vaste opération anticorruption sur la gestion des comptes publics par l'administration précédente. Koroma nie ces allégations qui, selon lui, font partie d'une campagne de dénigrement à son encontre.
Présidentielle américaine du 3 novembre, le président républicain Donald Trump exige deux débats face à face avec son rival démocrate Joe Biden les 22 et 29 octobre, a indiqué jeudi son directeur de campagne. Proposition immédiatement rejetée par l'équipe du candidat démocrate. Le point avec Abdourahman Dia.
Les Américains méritent d'entendre directement les deux candidats à la présidentielle à ces dates. La seconde à 5 jours du scrutin, a écrit Bill Stepien dans un communiqué. Donald Trump, testé positif au coronavirus, a refusé un peu plus tôt de participer virtuellement au débat qui était prévu le 15 octobre. La commission indépendante chargée d'organiser ces débats avait décidé jeudi matin que les deux candidats échangeraient à distance et dans des lieux séparés. Comme l'a dit le président Trump, un débat virtuel est totalement inenvisageable et serait clairement un cadeau pour Biden, a estimé Bill Stepien, lui aussi testé positif au COVID-19. Pour lui, la solution passe par le maintien du débat prévu le 22 octobre et par le report de celui du 15 à la fin du mois. Kate Bedingfield, la directrice de campagne de Joe Biden, a indiqué que le candidat démocrate est prêt à participer au débat final le 22 octobre. Donald Trump peut s'y présenter ou refuser, c'est son choix, a-t-elle poursuivi, estimant que le président ne peut pas changer un calendrier accepté par les deux équipes de campagne au mois de juin.
Ici aux États-Unis, toujours, 6 membres d'une milice ont été inculpés par la justice pour avoir projeté l'enlèvement de la gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, une opposante au président Donald Trump. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après l'enquête menée par la police fédérale depuis le début de l'année, les 6 hommes avaient prévu de kidnapper Gretchen Whitmer avant l'élection présidentielle du 3 novembre, puis de la juger pour trahison. Ils reprochaient à la gouverneure du Michigan d'être, je cite, « un tyran et d'avoir un pouvoir sans contrôle ». Plusieurs scénarios d'enlèvement ont été envisagés. À Lansing, la capitale de l'État, à son domicile et dans sa résidence de vacances dans le nord du Michigan. Pour mener à bien leur projet, les conspirateurs ont tenté d'acheter des explosifs, selon un agent du FBI. Madame Gretchen a décrété à la mi-mars des restrictions pour freiner l'épidémie de coronavirus dans son État, l'un des plus touchés par le COVID-19. Elle est la cible régulière d'attaques de M. Trump pour sa gestion de la pandémie et de plusieurs centaines d'opposants au confinement. Certains, armés, ont manifesté à plusieurs reprises à Lansing pour la réouverture de l'économie locale. Fin avril, des manifestants armés sont entrés dans le Capitole du Michigan pour exiger l'assouplissement des mesures sanitaires.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Les étalons du Burkina Faso sont en stage à El Jadida au Maroc. Depuis le 5 octobre, ils vont profiter des journées FIFA de 2 semaines pour livrer 2 matchs amicaux ce vendredi face aux Léopards de la République démocratique du Congo et le 12 face au Barea de Madagascar. Sur place à El Jadida, l'ambiance de la préparation avec Kader Traoré.
Les étalons du Burkina en stage au Maroc depuis le 5 octobre dernier vont livrer 2 matchs amicaux. Ce vendredi, ils seront face au Léopard de la RD Congo et le 12 octobre face au Balea de Madagascar.
Le sélectionneur national Kamo Malo répète les gammes avec 23 poulains afin d'avoir les automatismes.
Moi, on a joué il y a longtemps. Déjà, c'était déjà de remettre les garçons en ordre de bataille. Et cette journée va aiguiser encore et réveiller certains circuits qui étaient restés endormis depuis plus de 6 mois. Alors, vous avez vu les retrouvailles des uns et des autres. Et on va profiter de ce stage déjà pour préparer notre confrontation avec le Malawi en novembre. Parce que ça, c'est les qualifications de la Coupe d'Afrique.
Les joueurs eux sont très motivés en vue de réaliser deux belles prestations. Alain Traoré, un cadre de la formation burkinabé.
On a cœur de faire des bons matchs. Voilà, ça ne va pas être chose facile parce que voilà, on joue contre des grandes nations du football africain et on a la RDC qui a toujours été une grande nation du football africain. Les Madagascar, ça fait plusieurs années qu'ils sont sur une bonne pente vu les dernières Coupes d'Afrique. Donc voilà, il faut bien se préparer. C'est ce qu'on va faire, même si aujourd'hui on a quelques joueurs qui sont pas là.
Kader Traoré au Maroc pour VOA Afrique.
En face, le coach des Léopards, Christian Zengi, est confiant sur la qualité de son groupe. Malgré les nombreuses absences.
Ça fait plaisir de reprendre le chemin, donc le terrain de pied, ça nous manquait énormément. On a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps de méditer sur les échéances. Et pour le groupe là, qui est ici présent, je suis vraiment content déjà de l'entraînement d'hier. On a pu voir beaucoup de choses. Le groupe a de la fraîcheur, beaucoup des nouveaux, donc apporte quand même quelque chose, beaucoup. Parce que pour certains, je suis vraiment content de voir qu'ils ont eu à se mêler au groupe avec beaucoup d'aisance et beaucoup de joie. On a vu ça hier. Et je pense que nous allons faire, disons, un bon match, je crois. Parce que déjà l'esprit y est. Et surtout l'attitude, c'est l'attitude qui est importante.
Christian Sengui, coach des Léopards de la République démocratique du Congo, coup d'envoi de ce match entre étalons du Burkina Faso et Léopards de la RDC, 16h, temps universel. À suivre aussi ce soir, Maroc, Sénégal, Congo, Gambie, Algérie, Nigeria, Japon, Cameroun, Ghana, Mali, Mauritanie, Sierra Leone. Hier, la Belgique et la Côte d'Ivoire ont fait match nul, un but partout. Franck Kessié a répondu sur pénalty à la 87e minute au but de Michy Batshuayi, inscrit à la 53e. La Libye et le Togo se sont neutralisés 0-0 en Tunisie, 1-1 entre l'Afrique du Sud et la Namibie.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, les routes font partie des priorités depuis plusieurs années. Malgré les travaux en cours à Conakry, la capitale, et à l'intérieur, certains Guinéens ne semblent pas satisfaits, car circuler dans le pays n'est pas une sinécure, nous dit notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
L'appel passe et repasse. Les travaux de terrassement de la route secondaire ont repris il y a quelques jours ici à Kisoso, quartier périphérique de la capitale. La maison de Moussa est à 15 mètres de la route en construction.
Nous voulons vraiment des routes dans la capitale, mais vraiment si c'est comme ça, ça se passe. Il faudra attendre plusieurs années encore pour avoir des routes. Puisque là, ça ne se termine pas, tout ce qui commence, ça n'avance pas, il n'y a pas de suite logique, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment désespérant.
À Dixine, non loin du centre-ville, se déroule l'un des plus importants travaux de construction et d'aménagement des voiries de la capitale. Ici, la route 2x2 voies est loin d'être terminée.
Non, ce que nous demandons à l'autorité, c'est d'accélérer les travaux maintenant. Parce que vraiment, ça joue sur nous. Quand les travaux là seront finis, nos activités, c'est sûr que ça va reprendre comme d'habitude.
Je gère une barre à café et la clientèle aussi nous gêne beaucoup parce que les clients ont besoin d'accès, ils n'ont pas ces accès-là. Et la route fait que retarder.
Les engins sont de nouveau en action sur plusieurs sites après une période de grande pluie. En attendant la fin des travaux, les usagers prennent leur mal en patience, à l'image de ces chauffeurs et transporteurs rencontrés à Conakry.
D'ici Kindia ne vaut pas 135 kilos, parce que le 135 kilos c'est depuis au port. Bon, on peut faire 8h, 9h de temps ici Kindia, tellement que la route est mauvaise.
Avant, si on bouge le matin, on pouvait rentrer la nuit. À l'heure actuelle, tu peux faire 2 jours, 3 jours entre ici l'Hérault.
Entre 2014 et 2015, plus de 3000 km de route nationale en terre étaient dégradées, alors qu'en 2017, 710 km étaient en bon état, selon un document du ministère guinéen des Transports. Plusieurs routes sont en construction et la question des routes s'invite dans les débats de campagne électorale. Le président sortant Alpha Condé défend son bilan alors que les autres candidats à l'élection présidentielle parlent de résultats insuffisants. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Gabon, un récent rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement alerte sur les conséquences de la double crise sanitaire et économique dans le pays. Plus de 100 000 emplois sont touchés à l'échelle nationale. Port-Gentil, la capitale économique, plus de 80% des recettes du budget du Gabon en souffrent davantage avec la paralysie des sociétés de sous-traitance pétrolière. Reportage sur place de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Dave Makaya est en chômage depuis près de 5 ans. Le déflatté du secteur pétrolier s'est reconverti en pêcheur pour nourrir sa famille, dont l'espoir de trouver un emploi devient mince à Port-Gentil.
Pour déposer les dossiers, mais c'est difficile.
La capitale économique du Gabon est mal en point. La plupart des sociétés qui font sa réputation de petite Eldorado sont asphyxiées par les impacts conjugués de la crise sanitaire et de la crise socio-économique qui s'en est suivie. Cynthia Malekou et une cinquantaine de ses collègues se disent victimes d'un licenciement abusif. Comptable d'entreprise, elle s'est vue notifier une lettre de mise en congé technique, laquelle a finalement débouché sur sa radiation des effectifs avec un solde de tout compte payé.
Ils ont bafoué le code du travail, ils ont bafoué les autorités compétentes de la place, ils ont bafoué toutes les procédures de licenciement.
En effet, le gouvernement gabonais avait exigé des entreprises locales le maintien des emplois dans ce contexte difficile. Mais si les majors de l'or noir affichent une apparente embellie dans leur fonctionnement, c'est loin du cas des sous-traitants des services connexes, dont Edzo est gérant de petites et moyennes entreprises du pétrole.
On avait un effectif de 150 employés. On se retrouve aujourd'hui avec un effectif de 75 employés. Vous pouvez imaginer vous-même ce que ça peut donner comme perte financière.
Nous sommes sur le site de l'exploration production du pétrole à Port-Gentil, un site devenu par endroits presque un désert industriel. Les statistiques de la toute puissante Organisation nationale des employés du pétrole sont alarmantes. Kléber Ngadi est le secrétaire national de l'ONEP.
Les chiffres sont énormes. Nous sommes aujourd'hui à 3150 licenciés et c'est incroyable, y compris également les gars qui sont mis en chômage technique. Nous avons par exemple à côté cette entreprise que je citais si peu là, cette EPM, a mis presque son personnel en chômage technique. Avec la baisse du baril du pétrole, les entreprises pétrolières se sont senties presque touchées avec les taxes et les impôts que l'État imposait pour certaines entreprises.
Selon les données officielles de la loi des finances rectificatives 2020, du fait du Covid-19, le produit intérieur brut du Gabon serait en chute de 4,5%, passant d'une prévision initiale de 3,8% à moins 0,8%. Ismaël Obiangze pour VOA Afrique, Port-Gentil.
Le très convoité prix Nobel de littérature 2020 a été décerné à la poétesse américaine Louise Glick, 77 ans, pour son œuvre « À la beauté austère », entamée à la fin des années 60. Cas de particulier, cette œuvre ayant valu le Nobel à cette native de New York. Pour en parler, Nanit Talani a joint le professeur Dieudonné Zélé, romancier, poète, essayiste et enseignant retraité de langue anglaise à l'Académie de Poitiers en France.
Ben, comme vous le dites, Madame Louise Glück est une poétesse américaine. Elle écrit aussi des essais et elle a eu déjà plusieurs prix sur le plan national américain. Par exemple, elle a eu, je crois, le prix Pulitzer, ce qui n'est pas rien. Donc c'est une écrivaine reconnue, établie, qui vient donc d'avoir ce fameux prix, le prix Nobel de poésie. Hein. Je crois qu'elle a écrit 12 recueils de poésie. Elle fait de la poésie qui parle directement aux gens, quoi, où les gens peuvent se retrouver avec un langage apparemment simple, mais qui a quand même sa complexité. On récompense quelqu'un qui a une marque dans la littérature.
Qu'y a-t-il de particulier dans cette œuvre qui lui a valu le prix Nobel de littérature ?
Ce qui lui vaut le prix Nobel, je crois que c'est la qualité, la finesse de ses analyses. Elle parle au cœur du drame humain. La perte, la recherche de l'être perdu, enfin de l'être cher. Chacun d'entre nous se retrouve. En fait, elle nous plonge, pour ainsi dire, au cœur de la tragédie humaine, au cœur de l'expérience humaine. Voilà, c'est un travail qui est magnifique. Hein.
On voit que l'Afrique reste en arrière en ce qui concerne les prix de cette portée. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela ?
Là, ça va être très, très, très difficile. La première des choses, il faut donc revenir, pour ainsi dire, à notre situation en Afrique. Il est très, très, très difficile pour un écrivain africain en Afrique de percer et de s'installer, pour la simple raison que, ben, en Afrique, les maisons d'édition sont rares. En Afrique, on lit difficilement. Et aussi, à mon humble avis, ce qui peut nous poser problème, c'est que, j'ai failli dire, nos poésies, nos littératures sont pour l'instant trop engagées et trop, on dirait en Amérique, topical, qui sont de la lutte politico-littéraire. Et on fait difficilement, à mon humble avis, de la très très grande littérature, de la très grande poésie, lorsqu'on est ainsi limité à un point de départ particulier. La poésie, la littérature devrait englober l'expérience humaine dans son intégralité. Et je pense que chez nous, nous avons encore ce petit problème-là. Mais nous avons aussi de très grands écrivains, c'est absolument certain. Il faut dire, par exemple, que nous avons quand même eu Wallace Soyinka, qui a eu le prix Nobel de littérature en son temps. On est quand même pas si oublié que ça. Donc c'est à nous de faire un effort, nous, Africains, pour écrire et pour nous élever au niveau, que je ferais dire, de la qualité internationale.
Le professeur Dieudonné Zélé, romancier, poète, essayiste et enseignant retraité de langue anglaise à l'Académie de Poitiers en France.
VOA Afrique, une fenêtre.
Ici aux États-Unis, les entreprises appartenant à la communauté noire continuent à tourner pendant la pandémie de coronavirus grâce à un fonds de résilience. La Chambre de commerce africaine-américaine d'Oakland affirme avoir levé $1 million et prévoit d'octroyer des subventions allant de $2 500 à $10 000 à quelques 150 bénéficiaires. Mariama Diallo nous donne davantage de détails sur certaines de ces entreprises. Le récit est signé Thierry Kaoré.
Mannequin Madness est une entreprise appartenant à des Noirs qui a reçu des fonds de résilience de la Chambre de commerce afro-américaine d'Auckland pour l'aider à traverser la pandémie de coronavirus. Judy Anderson, propriétaire de Mannequin Madness.
Je me tiens ici en ce moment parce que nous avons obtenu le fonds de résilience. J'avais juste assez pour tenir pendant quelques mois.
Selon elle, la subvention de $10 000 a aidé l'entreprise à offrir de nouveaux services comme un studio de photographie pour chiens.
Maintenant que nous avons de nouvelles initiatives, nous avons d'autres sources de revenus qui arrivent.
James, créatrice de mode et entrepreneuse, a reçu une subvention de $5 000. Elle avait l'habitude de vendre ses robes et chapeaux colorés lors des festivals et conférences jusqu'à ce que la plupart soient annulés à cause de la pandémie. Elle dit que les fonds l'ont aidé à ajouter une nouvelle ligne à son entreprise, comme les masques faciaux.
Je pense que juste la communauté afro-américaine en général, nous avons une histoire de devoir nous soutenir les uns les autres, n'est-ce pas? Et il y a donc des opportunités qui se présentent pour lesquelles nous ne sommes pas souvent qualifiés. Parfois, nous sommes obligés de nous tourner vers nos voisins et les gens de notre communauté. Dans un sens, c'est ce que le fonds de résilience a été pour beaucoup d'entre nous, propriétaires d'entreprises.
Selon la présidente de la Chambre de commerce afro-américaine d'Oakland, Cathy Adams, les entreprises appartenant à des Noirs ont besoin d'être soutenues.
Nos entreprises appartenant à des Noirs ont été marginalisées pendant si longtemps et nous avons pensé que nous devons faire quelque chose.
Le Fonds de résilience est l'un des nombreux programmes de ce type créés aux États-Unis depuis que la pandémie a fermé des entreprises plus tôt cette année. Le groupe d'Oakland affirme que les fonds aident à compenser non seulement l'impact disproportionné du virus sur les familles afro-américaines, mais également la difficulté des entreprises noires à obtenir des prêts bancaires.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.